La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans La Voix des Arts, je vous propose de revenir pas loin de chez nous, un pays juste à côté avec une réputation de couleur et de chaleur, puisqu'il s'agit de l'Italie. Et pour rejoindre l'Italie, nous allons suivre une artiste en prenant comme point de départ Buenos Aires en Argentine, pays où nous avons fait escale le temps que je vous présente des artistes argentines sur quelques airs de tango. Pays où cette artiste est née également, mais dans lequel elle n'est pas restée, pour rejoindre très jeune l'Italie. Il s'agit de Léonore Fini, qui est née en 1908, donc au début du XXe siècle, d'un père argentin et d'une mère italienne, ou qui le deviendra dès 1921, en même temps que sa ville, Trieste, celle-ci ayant fait partie, jusqu'à cette date, de l'Empire austro-hongrois. Alors le début de vie de Léonore Fini est plutôt mouvementé, les parents se déchirent, si bien que sa mère s'enfuit avec son bébé sous le bras, si je puis dire, pour se réfugier dans sa ville d'origine, où se trouve sa famille, c'est-à-dire à Trieste. S'ensuit ensuite ce qui ressemble à de folles équipées sauvages organisées par un père velléitaire avide de récupérer sa fille, quitte à employer les grands moyens, même le kidnapping, ce qui fait que Léonore devra se cacher, se travestir, s'habiller en garçon pendant de longues années pour échapper à son géniteur. Alors sa vie est mouvementée, mais sa nature ne l'est pas moins, puisqu'elle est régulièrement renvoyée de ses écoles pour cause d'indiscipline, si bien qu'il semblerait qu'elle ait davantage fréquenté la bibliothèque familiale que les bancs de l'école. Et c'est une chance, car le fait d'être issu d'un milieu bourgeois et éduqué lui permet de profiter de cette bibliothèque familiale largement pourvue grâce à son oncle Ernest Braun, d'une grande culture qui va l'initier à la philosophie, la littérature et à l'art. Alors par la suite, en grandissant, elle fréquentera également les cercles intellectuels, littéraires, artistiques de sa ville de Trieste, ville qui reste placée ou tiraillée entre deux pays, l'Autriche et l'Italie, si bien que celle-ci accueillera les intellectuels artistes des deux nationalités, ce qui fait que Léonore aura grandement de quoi parfaire son éducation en fréquentant toute une élite intellectuelle et artistique. Alors c'est ainsi qu'elle côtoiera nombre d'écrivains, poètes, peintres, et ce qui devait arriver arrivera, car peu à peu, son goût pour l'artistique va s'affirmer jusqu'à ce qu'elle-même prenne le pinceau pour exprimer des talents de créatrice. Alors ses goûts la porteront également à créer des costumes et à confectionner des masques. Et je me demande si on ne pourrait pas mettre en lien cet intérêt avec le fait qu'elle ait dû se travestir et se dissimuler déjà toute jeune pour échapper aux assauts paternels. Enfin, quoi qu'il en soit, elle manifeste suffisamment de dispositions artistiques pour exposer déjà à 21 ans, en 1929 à Milan, ville dans laquelle elle a élu domicile dès l'âge de 17 ans. Or, sa peinture à cette époque est encore inspirée du classicisme, d'après ce que j'ai compris. Ceci dit, elle ne restera pas à Milan, qu'elle quittera pour Paris, afin de rejoindre son amoureux du moment, et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'un prince, Lorenzo Lanza del Vasto, qui n'est autre que le frère de l'écrivain célèbre spiritualiste du même nom. Alors à Paris, elle va continuer à fréquenter les salons intellectuels, celui de l'homme de lettres et critique d'art Robert de Montesquieu ou de la romancière poétesse Anna de Noailles. Entre-temps, elle rompt avec Lorenzo de Lanza del Vasto pour un écrivain surréaliste André-Pierre de Mandiargue. Alors il est clair que toutes ces rencontres la maintiennent dans le milieu dans lequel elle va évoluer, elle aussi en tant qu'artiste et créatrice. Alors elle se liera avec les surréalistes et sa peinture prendra cette orientation où elle mettra en scène tout un univers onirique qui lui appartient. Elle exposera à Paris dès le début des années 30, ensuite ce sera en Amérique dans les années 40. Ses amis sont à ce moment les peintres Max Ernst et Leonora Carrington. Cette peintre, je vous l'ai présentée déjà dans La Voix des Arts. Elle côtoie également Salvatore Dali et sa femme Gala. En 1940, elle s'installe à Monte-Carlo, produira une œuvre conséquente, surtout constituée de portraits d'artistes, notamment de comédiens, comédiennes célèbres. Mais sa production ne s'arrêtera pas au portrait puisqu'elle créera des costumes et des décors de théâtre, sera également écrivaine. Bref, c'est une vie très riche en créativité, en rencontre également, une vie d'artiste totalement ouverte, épanouie et je suppose épanouissante, en tout cas qui apparaît vraiment facile. Et de son vivant, elle aura eu de nombreuses expositions à l'international. Alors, elle est décédée en 1996, mais ses œuvres se retrouvent dans bien des musées à l'étranger, à l'Italie, en Italie, en France, aux États-Unis, Suisse, Japon. Elle aura inspiré aussi beaucoup d'intellectuels et d'écrivains qui lui consacreront leurs écrits. Et on peut dire qu'au même titre que bien des hommes, le nom de Léonore Fini restera dans les annales de l'art du XXe siècle. Alors nous allons laisser cette célèbre artiste pour nous pencher sur une autre personnalité italienne qui mérite que je m'y attarde, car elle était aussi très créative et touche à tout. Il s'agit de Edina Altara, qui elle était plus âgée que Léonore Fini d'une dizaine d'années, car elle est née en 1898, à la toute fin du 19e siècle, ce qui fait bien d'elle une artiste italienne de la première moitié du XXe siècle. Bon, à son actif, il faut dire qu'elle fut illustratrice, peintre, céramiste et décoratrice. Alors très jeune, sa vocation s'affirmera pour le dessin et les compositions colorées qu'elle aborde en autodidacte jusqu'à participer à une exposition collective à Turin pour y être remarquée alors qu'elle n'avait que 18 ans par le roi d'Italie Victor Emmanuel III qui se procurera même l'une de ses œuvres. Elle retiendra également l'attention et plutôt favorablement du milieu artistique, des peintres, des écrivains et même les critiques d'art en vue de l'époque. Elle épousera par la suite un illustrateur nommé Vittorio Acornero de Testa, connu sous le pseudonyme de Victor Masninon, et ils travailleront ensemble et signeront de concert leurs œuvres communes. Edina Altara poursuivra ensuite son cheminement artistique en solo, se lançant dans la céramique, puis la décoration, pour enfin devenir, dans les années 30, créatrice de mode pour une clientèle choisie. Alors elle collabora également par la suite à divers magazines de mode, l'inconnu est réputé à l'international, intitulé Grazia, et l'autre aura pour nom Bellezza. Alors également exercera-t-elle ses talents pour illustrer des livres d'enfants. De la mode, elle passera au design et à la décoration de mobilier. Donc, vous pouvez constater que c'est une artiste qui disposait de plusieurs cordes à son arc qu'elle n'a pas manqué d'activer tout au long d'une carrière plutôt réussie. Alors si je vous ai emmené en Italie, c'est bien évidemment pour voir comment ces femmes du début du XXe siècle s'arrangeaient dans un pays latin dit plutôt machiste par tradition, qui était peu porté à laisser les femmes évoluer librement à l'extérieur de la maison, hein, comme elles en auraient eu envie. Les deux personnalités que je vous ai présentées semblent prouver le contraire, mais qu'en est-il des autres? Et y en a-t-il eu d'autres? Alors je dois dire que je me suis aussi entêtée à chercher des musiciennes, des compositrices italiennes de ce début du XXe siècle. Et je dois dire encore que autant les compositrices espagnoles, voire argentines, sont nombreuses, autant les Italiennes pêchent par leur absence. Mais j'ai trouvé des compositrices du XIXe siècle, de la moitié et seconde partie du XXe siècle, mais de l'époque qui m'intéresse. Ben, je désespérais quelque peu lorsque je suis tombée sur l'une d'elles, que je n'ai pas manqué d'épingler au passage, et qui était également pianiste d'ailleurs. Alors elle est née en 1899, juste aux portes du XXe siècle. Aussi, j'ai le plaisir de vous présenter Elena Barbara Giurana. Alors c'est dans sa ville natale, Palerme, qu'elle étudie le piano au conservatoire, puis continue dans cette voie à Naples et encore à Milan pour étudier la composition. Elle enseignera par la suite la musique au Conservatoire de Rome pendant plus d'une trentaine d'années. Elle deviendra également éditrice pour la musique du XVIIIe siècle ainsi que consultante pour la RAI, le groupe audiovisuel public d'Italie, et pour clore son cursus en 1982 à l'âge de 83 ans. Elle sera élue membre de l'une des plus anciennes institutions musicales d'Italie, voire d'Europe, même du monde, car elle fut créée en 1585, institution qui reçut les plus grands noms de la musique italienne, chez Rubini, Paganini, Rossini, entre autres, et également européenne, comme les Français Gounod, Berlioz, le Hongrois Liszt, l'Allemand Mendelssohn. Et cette institution, située à Rome, c'est l'Académie nationale Sainte-Cécile. Et c'est après une très longue carrière, une très longue vie, que cette compositrice s'éteindra à l'âge de 99 ans, à l'aube du XXIe siècle. Mais intéressons-nous un peu aux compositions de la dame. Alors il semblerait que le style soit plutôt classique. Elle a composé concertos, sonatines pour piano, des messes, de la musique pour ballet, l'un par exemple intitulé la Trappolo d'Oro, créé en 1929, un opéra comme Giamento, créé en 1941, des musiques pour voix, pour chœur, chorale, et d'autres œuvres encore. Ce que je vais vous faire écouter maintenant, aussi, je vous propose Canto Arabo, un chant arabe, qui est une pièce chantée. Thank you. Alors, je vous ai aussi emmené en Italie parce que le début du XXe siècle étant une période de transition et de changement important, les artistes vont traduire, interpréter ou adhérer à leur manière à une certaine idée de la modernité, emportés eux-mêmes par ce vent de liberté et de nouveauté qui souffle un peu tout azimut. Et c'est à ce moment que les sciences et les techniques prennent leur essor, leur envol même, si je puis dire, car l'homme est maintenant capable de créer des machines pour se déplacer sur Terre sans l'assistance de l'animal, et aussi, et c'est le cas de le dire, que la technique prend son envol au sens propre du terme, puisque l'aéronautique se développe et qu'il est maintenant possible de voler comme un oiseau. Aussi, le mouvement artistique qui traduit le mieux ces valeurs où la vitesse est fêtée, la machine glorifiée et où l'avenir ne se conçoit plus que sous son aspect de modernité technique, c'est le futurisme. Alors le futurisme naît en quelque sorte en Italie, puisque le fondateur du mouvement est un peintre italien qui se nomme Tommaso Marinetti, qui va ensuite développer un autre mouvement en lien avec le futurisme, c'est l'aéropeinture, qui sera appelée le second futurisme et qui consiste à introduire avions ou autres machines volantes dans les productions picturales. Alors nous pourrions supposer que le futurisme attire davantage les hommes avides de progrès où la vitesse est reine et où les machines règnent en maître, d'autant plus que la misogynie et le mépris du féminin semblent aller de pair. Eh bien non, des femmes, elles aussi, sont attirées par le progrès, la technique, la vitesse, et elles le montrent, s'appropriant ce mouvement qu'elles adaptent en quelque sorte à la conception qu'elles ont de la femme moderne de ce début du XXe siècle. Et d'ailleurs, l'une d'elles, une Italienne nommée Olga Biglieri-Scurto, dont le surnom est Barbara, n'hésitera pas, en parallèle de sa carrière de peintre, à entreprendre une formation pour devenir pilote aérien. Alors, elle est née un peu plus tard que celle que je vais vous présenter, c'est la Benjamine, puisqu'elle est née en 1915. Et elle sera d'ailleurs l'une des trois femmes principales, actives, membres du futurisme et du mouvement de l'aéropeinture. Alors son aînée est une sculptrice principalement, bien qu'elle ait touché au dessin, à la scénographie, qui est née en 1894, donc elles ont 21 ans d'écart. Et celle-ci, italienne également, nommée Regina Cassolo Bracci, qui mixtera à des thèmes plutôt féminins l'aéronautique. Ses sculptures seront de formes épurées et sa particularité sera d'introduire des matériaux nouveaux ou insolites comme l'étain, l'aluminium, le celluloïde, puis ensuite, un peu plus tard, le fer et le plexiglas. Et elle créera ce qui a été appelé des aérosculptures en introduisant notamment encore la résine, le laiton, enfin bref, toutes sortes de matériaux peu usités. Alors une autre artiste adepte du futurisme se nomme Benedetta Cappa, une Italienne encore, née en 1897, qui elle était peintre, scénographe, écrivaine et théoricienne de l'art. Celle-ci adhérera si bien aux idées et projets futuristes qu'elle finira par épouser son fondateur, c'est-à-dire le peintre Filippo Tommaso Marinetti, présenté plus haut. Bon, ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Alors, dans cette communauté d'artistes qui se forme autour du futurisme, nous trouvons le peintre Giacomo Balla, qui lui embarquera dans cette grande aventure ses deux filles, Elissa et Luce Balla, qui non seulement s'adonneront à la peinture, mais aussi aux arts appliqués et à la tapisserie, entre autres. Alors des élèves, femmes également, de Giacomo Balla s'intégreront ou seront inspirées par ce mouvement futuriste, comme la peintre talentueuse reconnue et nommée Pierina Levi, une Italienne qui elle est née en 1890, et aussi Annie Nathan, Lucia Tarditi, pour les citer, et que vous puissiez constater que les femmes ne manquent pas à l'appel du futurisme. Bon, je peux continuer à en citer, hein, comme Leandra Angelucci Cominazzini, encore une Italienne, comme vous pouvez l'entendre, une peintre notamment sur verre et émail, tapissière née en 1890, qui a également adhéré au mouvement pour partie de son travail. Alors c'est aussi une peintre, graveuse italienne, née celle-ci en 1900, nommée Maritza Mori, qui deviendra aéropeintre. Une autre artiste encore, une avant-gardiste, nommée Giovanna Senzi, qui va utiliser, elle, le langage du corps pour interpréter dans sa gestuelle, mais sans musique, les aéropeintures d'artistes comme Prampolini et les poésies de Marinetti. Enfin, voilà pour toutes les Italiennes, adeptes du futurisme, mais elles ne sont pas les seules, car j'ai rencontré une Autrichienne, une Viennoise, nommée Edith von Eno, qui se fera connaître sous son nom d'artiste Rosa Rosa, en tant qu'artiste complète, puisqu'elle était peintre, illustratrice, sculptrice et écrivaine. Et elle travaillera en outre pour le journal L'Italia Futurista. Alors je vais terminer par une Française, bien qu'elle soit l'aînée de toutes ces dames, même si elle fut la première femme à adhérer au futurisme. Elle se nomme Valentine de Saint-Point. Elle est née à Lyon en 1875. C'est une femme qui porte plusieurs casquettes car elle est à la fois peintre, chorégraphe, écrivaine, dramaturge, journaliste, poétesse. Bon, il est à noter en passant qu'elle est l'arrière-petite-nièce du poète Lamartine, ce qui n'est pas rien. Elle est l'auteur du manifeste de la femme futuriste. Et c'est en féministe qu'elle s'opposera aux idées misogynes des futuristes en affirmant une féminité moderne, indépendante, plus guerrière à ce qu'il paraît, et sera également l'auteur d'un manifeste futuriste de la luxure. Hein, c'est tout un programme. Alors elle se serait inspirée de Nietzsche en proclamant la venue d'une super femme émancipée dans son mode de vie et sa sexualité. Bon, ce qui est quand même osé pour l'époque. Alors j'ai encore sous le coude, entre guillemets, une compositrice italienne qui mérite d'être citée ne serait-ce qu'à cause de l'âge de son décès. Et en effet, elle est décédée à 111 ans en 2019. Car elle est née en 1908. Il s'agit de la compositrice nommée Cecilia Seghizzi, qui était également violoniste et peintre. Bon, et je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter une courte pièce au piano intitulée Ricordo. Alors venir faire un petit tour en Italie fut surtout l'occasion de vous présenter ce mouvement du futuriste et les femmes, bien sûr, qui ont adhéré, même si d'autres artistes italiennes se sont exprimées, même différemment, comme par exemple Titina Maselli, qui elle est née en 1924 et fut artiste avant-gardiste, peintre et également scénographe, puisqu'elle a travaillé avec différents metteurs en scène de théâtre et surtout italiens ou français. Bon, il est vrai que son frère Francesco Mazzelli était réalisateur. Elle a également baigné toute jeune dans une atmosphère artistique et culturelle, puisque son père, Ercole Mazzelli, était critique d'art et recevait chez lui nombre d'artistes et écrivains italiens connus et reconnus. En tout cas, Titina Mazzelli est une artiste qui eut par la suite une renommée internationale. Alors, elle est décédée à 81 ans en 2005, ce qui fait qu'elle a traversé tout le XXe siècle pour entamer le 21e siècle. Alors, en peinture, ses thèmes s'axaient surtout autour de la vie dans les villes, du quotidien de son époque, mi à fin XXe siècle. Elle traduisait avec un style pictural qui s'inspirait de différents mouvements, le pop art par exemple, objet du quotidien populaire aux formes simplifiées et aux couleurs crues. On lui attribue également des influences futuristes. En tout cas, elle avait une façon très personnelle d'aborder et d'interpréter la réalité de la vie de son époque. Et par exemple, elle nous montre la réalité sous un autre aspect, c'est-à-dire sous un autre angle de vue auquel on ne penserait pas forcément pour peindre un tableau. Mais également, son travail de scénographe ne laisse pas indifférent. Mais déjà, à ce qu'il paraît, toute jeune, elle faisait preuve d'indépendance d'esprit, de personnalité, ce qui a certainement joué par la suite dans son parcours professionnel, dont son travail témoigne. Donc je dirais que c'est une originale à découvrir. Et bien sûr, ces bonnes paroles, en hommage à nos artistes italiennes, femmes modernes de ce début de XXe siècle, nous allons nous quitter. J'espère que vous faites de beaux voyages en leur compagnie et en ma compagnie d'ailleurs, pour vous servir de guide. La prochaine émission, nous irons sous d'autres cieux, à la découverte encore d'autres femmes artistes créatrices de ce début du XXe siècle. Et j'espère que vous serez présents au rendez-vous, et je vous remercie de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.